Nous allons nous rendre dans ce psaume ce matin, toujours sur ce thème de la Bible. Le psaume 119, c'est un monument dans la Bible. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est-à-dire il est en plein milieu de la Bible. Et puis c'est le plus grand chapitre, en quelque sorte, de la Bible, le plus long. Quelqu'un sait le nombre de versets qu'il y a dans ce psaume ? Combien de versets ? 176. 176, c'est 8 fois 22. Pourquoi 8 fois 22 ? Ça me semble particulier en hébreu. Hein. Il y a 22 lettres. C'est un acrostiche, voilà. C'est un psaume, un acrostiche, c'est-à-dire que les 8 premiers versets commencent par la lettre Aleph, ainsi de suite, les 8 suivants, jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui est Tav, si je ne me trompe pas, voilà. Hein, toujours 8 versets. Donc peut-être pour mémoriser, hein, pour apprendre par cœur ce psaume, j'ai connu une femme de pasteur qui pouvait réciter le psaume 119 par cœur. Écoutez, dans le temps, hein, on apprenait par cœur. Hein. Donc c'est un hymne à la parole de Dieu. Hein. Et on va voir que l'écrivain de ce psaume, celui qui a écrit ce psaume, eh bien, il va décliner tous les synonymes de la parole, hein, parce que c'est un psaume qui a la particularité, dans chaque verset, sauf un, je crois, de faire une référence à la Bible. Alors, soit c'est la loi de Dieu, les ordonnances, les commandements, etc. Hein, une bonne douzaine de termes différents. Alors, on va parcourir ce psaume aujourd'hui, parce qu'évidemment, on aurait pu le lire aussi. Hein. Mais on va regarder quelques versets. D'abord, on va le décliner un peu avec la lettre P. On verra le plaisir de lire la Bible, la parole, la passion de la parole, la pratique de la parole et le partage de la parole. Donc d'abord, la lecture plaisir. Il faut que la lecture de la Bible soit un plaisir, mes amis. Pas une corvée. Je pense que c'est un peu le témoignage de notre frère. Regardez avec moi quelques versets. 119, 14. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. On voit l'oncle Picsou là, avec toutes ses pièces de monnaie là, qui est tellement content là, de compter ses pièces. Mais voilà, pour lui, la parole de Dieu, c'est procure beaucoup plus de joie. Beaucoup de joie. Regardez verset 24. Verset 24, « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » Et puis on revient en arrière, j'ai encore un verset quelque part que j'ai noté, sinon c'est un peu plus loin, c'est 143. Voilà. Vers la fin de ce psaume, il y a encore un verset qui nous parle de ce plaisir, la détresse et l'angoisse se sont emparés de moi. Donc, même dans l'épreuve, mais tes commandements font mon plaisir. Voilà. Il trouve du plaisir à lire la parole de Dieu. Est-ce que vous trouvez du plaisir à lire la Bible ? Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'agréable ? Voilà. Ça, c'est important. C'est important que ce soit quelque chose d'agréable le moment où vous vous plongez dans la Bible. Vous savez, moi le matin, souvent, c'est vrai que j'attends mon petit déjeuner. Moi, j'aime bien mon petit déjeuner, mon bol de chocolat avec mes tartines. Et c'est vrai que quand je me lève le matin, j'ai faim et j'attends ça avec impatience. Mais voilà, est-ce que vous attendez le moment où vous allez lire la Bible avec autant d'impatience ? Vous avez faim de la parole, ça vous tarde de vous asseoir. Et faites-le de manière confortable. C'est important, hein, de prendre le temps. Prenez un bon fauteuil, le canapé, je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous. Vraiment calme, confortable. Votre Bible, peut-être de quoi aussi chanter ou écrire. Mais voilà, que ce soit un moment de plaisir. Hein, comme un repas. Verset 16. Hein, verset 16, il est dit, « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Je fais mes délices. C'est comme un repas. Un festin, festine, hein, un nissar, c'est une fête, un repas de fête. Voilà. Et ce psaume donne quelques conseils justement par rapport à ça, donc de s'approcher de ce moment avec joie, vraiment comme un moment de fête. Et 119, toujours, verset 147-148, nous dit, nous conseille un petit peu par rapport à cela, donne l'exemple de l'écrivain qui dit, 147, « Je devance l'aurore pour implorer ton aide, j'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Donc, à quel moment prend-il du temps dans la parole de Dieu ? Le soir, à la fin de la journée, quand il est bien fatigué, c'est ça ? Non, le matin. Vous savez, il n'y a pas de secret. Le meilleur moment, c'est le matin, avant de commencer la journée. Je sais que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. On est plus du soir que du matin, mais bon, l'important, c'est de prendre du temps. Mais là, voilà, un bon moment, dès le matin. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse, mes amis, nous dit aussi notre texte, on va le voir. Hein. Verset 18. On l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La Bible est merveilleuse, mes amis. Amen. Plus bien. La Bible est merveilleuse. On doit être enthousiaste pour la parole de Dieu. Vraiment, on va voir après une passion de la Bible. La Bible est merveilleuse. Verset 27, c'est la même idée. Verset 27. « Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. » La Bible est merveilleuse parce qu'elle nous parle d'un Dieu merveilleux. Dieu d'amour, un Dieu puissant. On découvre dans la Bible, c'était intéressant le témoignage, on découvre un Dieu qui n'est pas le Dieu qu'on pense. C'est un Dieu différent, c'est un Dieu, un Père, on l'a vu, un Dieu qui nous aime, un Dieu créateur, un Dieu plein de sagesse, un Dieu qui aime la beauté, la justice. Donc, la lecture plaisir d'abord, il faut que ce soit un plaisir de lire la Bible. La lecture passion maintenant, c'est encore plus fort. La lecture passion. Regardez, verset 162. 162 nous dit, « Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. J'ai toujours rêvé, si vous voulez connaître un de mes rêves, j'ai toujours rêvé de découvrir un trésor. » Tout petit, hein, ça a été tout le monde. Hein. Ah, si j'avais pu découvrir un trésor. Hein. D'ailleurs, très tôt, je me suis intéressé à l'archéologie. Hein, et c'est comme ça que, d'ailleurs, je me suis converti. Hein, parce que c'est en allant à un camp d'archéologie que j'ai reçu un témoignage biblique. Et voilà, de fil en aiguille, je suis venu au Seigneur. Donc, le Seigneur, il m'a attiré par l'archéologie, par cet intérêt. En 2012, dans le département de l'Aube, des ouvriers ont découvert 17 kilos de pièces d'or dans le plafond d'une vieille maison, un faux plafond. Hein. 17 kilos, 500 pièces de monnaie pour une valeur de 750 000 euros. Quand on découvre un trésor, on est appelé inventeur du trésor et on a droit à la moitié du trésor, le reste revenant au propriétaire. Pas mal, hein, ces ouvriers. Quelle découverte. Oh là là, quand vous lisez ça, moi, ça me fascine. Hein. Je n'ai jamais trouvé de trésor, hélas. Mais j'ai trouvé la Bible. J'ai découvert la Bible. Et ça, c'est un trésor. Vous avez entre les mains un trésor. Le magazine Lire, le mois dernier, a publié un numéro spécial. Je l'ai mis sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, où il a mis que la Bible, c'est le premier des livres. Et il a mis tous les prix, prix Goncourt, la Bible. Prix Renaudot, la Bible. Prix Femina, la Bible. C'était une façon de dire, voilà. La Bible, c'est un livre unique. Numéro un, c'est un trésor. Vous avez un trésor entre les mains. Vous avez le droit de vous passionner pour ce livre, mes amis. On se passionne si facilement. Pour un roman, même. Hein. Qui ne s'est jamais passionné pour un roman ? On se plonge dans un roman et on le lit jusqu'au bout. N'est-ce pas, Frédéric ? Je suppose. on peut se passionner pour un sport aussi, hein, le sport peut passionner, vous voyez, ça déchaîne les passions. On peut se passionner même pour la politique, n'est-ce pas? Passionnez-vous pour la Bible, mes amis. Lisez-la, comme notre frère à qui il a lu l'Ancien Testament, première lecture, l'Ancien Testament jusqu'au bout. Il faut le faire, hein. Pas toujours facile, mais il l'a fait. Toute la Bible, lisez-la en entier. Vous savez, on peut lire la Bible en quelques mois. Hein. On peut lire la Bible en 6 mois, à raison de 7 chapitres par jour. Ça demande un peu de discipline, mais c'est faisable. En 6 mois. En 1 an, 3,5 chapitres par jour. Il faut 3 minutes par page, à peu près. Donc vous comptez, ouais, pour lire la Bible. C'est pas sur la chronométrie, mais c'est pour vous rendre compte que finalement, vous pouvez facilement lire la Bible en très peu de temps. Hein. Et la dévorer, mes amis, la dévorer. Hein. Comme disait Jérémie, j'ai dévoré tes paroles. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, mes amis. Lecture plaisir, lecture passion. Passons maintenant à la pratique hein, de la parole, la pratique de la lecture d'abord. Après, on verra la mise en pratique, les méthodes de lecture. Alors, il ne suffit pas de lire la Bible. Bien sûr, on peut la lire. On oublie ce qu'on a lu, mais il faut aussi la méditer. Et ça, c'est répété plusieurs fois. Regardez plusieurs versets avec moi. Verset 15, verset 23 et verset 48. Verset 15. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je médite. Verset 23. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Verset 48. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Voilà. Donc c'est répété hein, plusieurs fois. Il y a d'autres termes. Il dira qu'il est attentif à la parole. Le mot méditer en hébreu est intéressant, on le trouve dans le psaume 1er, heureux celui qui médite la parole de Dieu. Le mot méditer, c'est l'idée de ruminer, comme une vache, vous savez, un ruminant. La vache rumine toute la journée, en quelque sorte. Et il le dit d'ailleurs, hein, verset, on va le lire aussi, 97, c'est intéressant. Parce que l'idée, voilà, quand on médite, c'est on prend le temps de réfléchir à ce qu'on lit, d'analyser ce qu'on lit. Mais la méditation peut se poursuivre toute la journée. Verset 97, nous lisons « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Ce que vous avez lu le matin, voilà, vous pouvez encore le ruminer pendant la journée, le méditer. C'est bien d'avoir une Bible avec soi. Hein. Il y a une sœur qui me montrait qu'elle a toujours une Bible avec elle, c'est bien. Prenons le temps de mastiquer les versets. Vous savez, aujourd'hui, nous mangeons trop vite, trop souvent. Parfois, je suis surpris. Hein, personne n'a pas fini mon repas. Ils ont déjà terminé. Hein, c'est ouf. Ils ont avalé. On fait ça avec la Bible parfois. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez avoir des problèmes après. On a des problèmes d'estomac quand on mange trop vite. Vous allez avoir des problèmes spirituels si vous mangez trop vite la Bible. Il faut la mastiquer. Il faut la ruminer. Il faut la méditer mot par mot, verbe par verbe. Parce que si l'écrivain ici a décliné tous les synonymes de la parole de Dieu, il y a plein de mots différents, une douzaine, eh bien, il a aussi épuisé, je dirais, tous les verbes. Parce que verset par verset, c'est des verbes différents, très souvent, hein, des verbes qui reviennent, mais ils sont beaucoup de verbes différents pour parler de son approche, de sa méditation de la parole de Dieu. Donc, méditez la Bible, prenez le temps de souligner, de surligner, de colorier, hein. Les Bibles ne sont pas chères aujourd'hui. Vous pouvez épuiser votre Bible, vous pouvez l'user. Vous avez un très bon comptoir d'ailleurs là-bas avec des Bibles. Hein. Ne vous privez pas. Ensuite, il faut étudier la Bible aussi. C'est encore autre chose que d'étudier la Bible. On peut méditer simplement comme ça, dans sa tête, voilà, prier. Mais l'étudier, c'est un peu plus poussé déjà. Et regardez le verset 7. « Je te louerai avec un cœur droit » en étudiant tes justes sentences. Hein? Étudier. Je dis toujours aux chrétiens, une fois que vous êtes venu au Seigneur avec votre Bible second 21 à 1,90€, au bout d'un moment, vous la mettez de côté et s'il vous plaît, achetez une bonne Bible. Hein? Une Bible d'études. Ça, ce n'est pas une Bible d'études que j'ai là, mais une Bible d'études, vous en avez là-bas, c'est une Bible qui a des parallèles, des versets, éventuellement des commentaires, mais même sans les commentaires, mais au moins que vous puissiez vraiment méditer, étudier. Moi, ma vie a changé quand j'ai acheté ma première Bible d'études. Voilà, où j'ai étudié la Bible, avec la Bible. Bon. Avec une concordance aussi, peut-être. Et puis, prenez un cahier, même si c'est juste pour recopier des versets. On retient beaucoup mieux ce qu'on écrit, mes amis. N'ayez pas peur d'écrire, de recopier vos découvertes, vos réflexions, de comparer différentes versions, traductions. Dans mon église à Limoges, j'avais un diacre qui était retraité, il s'appelait Jean-Marie. Et donc, quand je le visitais, il m'amenait toujours dans son sous-sol, là, il avait son bureau. dans un grand bureau, et sur son bureau, il y avait plein de Bibles. Il aimait acheter des Bibles de différentes traductions, différentes versions, et ces Bibles étaient souvent ouvertes. Voilà. Comment il méditait? Il méditait avec toutes les Bibles qu'il pouvait avoir, toutes les traductions. À l'époque, il y avait moins de choix qu'aujourd'hui, des années 80. Hein. Vous aviez Darby, vous aviez Second, vous aviez Jérusalem, des choses comme ça, mais la Tob. Aujourd'hui, on a plein de choix, même dans d'autres langues. Il aimait beaucoup la Bible. Est-ce que vous aimez la Bible? Hein? Vous savez, Jésus, il a dit quelque part, on va le lire, Jean 14, verset 23-24. Il y a quelque chose d'important, hein. Jean 14, verset 23-24, et il nous dit que si on l'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, si nous aimons le Seigneur, si nous disons, moi j'aime beaucoup Jésus, et que vous ne lisiez pas la Bible, que vous ne méditiez pas la Bible, que vous ne étudiez pas la Bible, vous mentez là. Vous mentez. On ne peut pas dire j'aime le Seigneur et ne pas lire, ne pas garder en conséquence après sa parole. Un chrétien qui aime le Seigneur, il aime la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Autre chose, si vous pouvez prier la Bible, la lecture prière. Est-ce que vous connaissez ça, la lecture prière? La lecture prière, ben c'est, regardez, verset 26, on revient au psaume 119. 119, verset 26. On voit qu'ici, il résume un peu ce qu'on appelle le culte personnel. J'expose mes voix et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Donc il expose ses voix, il prie, il parle au Seigneur. Et Dieu lui répond par la Bible. Et l'idée aussi, c'est voilà, de transformer en prière ce que vous lisez. De transformer en prière ce que vous lisez. Vous lisez un verset. Hein, parce que, en fait, les psaumes sont des prières, de toute façon. Déjà. Rien que les psaumes, ce sont des prières. Donc vous pouvez prendre le psaume ici, quand il dit « Enseigne-moi tes sentiers », c'est une prière. Et il ne suffit pas de le lire ou de le méditer, mais de dire « Seigneur, Seigneur, oui, fais-le pour moi, enseigne-moi tes sentiers, instruis-moi, Seigneur, explique-moi, aide-moi à comprendre. » Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous lisez, vous pouvez prier aussi. Transformer en prière, en louange. Vous pouvez aussi chanter le Seigneur. Regardez, verset 7. Je te louerai avec un cœur droit. On l'a déjà lu. Hein, en étudiant tes justes sentences. Mais voyez, il y a l'étude et la louange. La louange. Bon, moi, ce n'est pas trop mon truc, mais certains, dans leur culte personnel, ils n'hésitent pas à chanter. Hein. Ma fille, elle a une fille, elle a un culte personnel, elle chante aussi. Elle aime bien chanter, elle aime bien louer le Seigneur. Elle a un recueil cantique où elle chante ce qu'elle connaît. Hein, c'est bien aussi. De chanter le Seigneur, de louer, regardez, 171, 172. Nous avons un culte dimanche, mais c'est bien d'avoir un culte chaque matin, chaque jour. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Donc voilà, donc il s'exhorte lui-même, il dit voilà, que je te loue, Seigneur. Je veux te louer, je veux te célébrer, Seigneur. Je veux te chanter. Dernière chose, mémoriser la Bible. Mémoriser la Bible, on le lit au verset 13, par exemple. C'est-à-dire apprendre la Bible par cœur. Apprendre les 176 versets par cœur. Défi, hein. Non, mais au moins certains versets, 176, c'est beaucoup. Mais verset 26, nous lisons. J'expose mes voix, alors est-ce que c'est ce verset? Non, c'est pas 26, c'est 13, j'ai dit. 13, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. Énumérer, c'est répéter, c'est redire, c'est réciter pour ne pas oublier, c'est apprendre. Apprendre la parole de Dieu. Verset 16, dernière partie du verset, je n'oublie pas ta parole. Comment ne pas oublier la Bible? Eh bien, en l'apprenant par cœur. Moi, j'ai appris par cœur des versets bibliques quand j'avais 20 ans. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Hein? Je ne veux pas dire que si vous avez 60 ans, vous n'allez plus pouvoir les retenir, mais apprenez, essayez de mémoriser des versets encore. Vous savez, c'est important. C'est très important de mémoriser la parole de Dieu. Ça sera un secours à un moment ou à un autre. Hein? Verset 11, un des versets qu'on apprend par cœur. Hein. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » je la garde dans mon cœur. Je la range. Serrer, dans le vieux français, ça veut dire ranger aussi. Je la range dans mon cœur. Hein, afin de ne pas pécher contre toi. C'est une garantie. Donc, dans le cœur et pas seulement dans la tête. Passons maintenant à la pratique de la Bible, mais la mise en pratique maintenant dans la Bible. Parce que dans la vie chrétienne et dans la vie tout court, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est vrai dans tous les domaines, même dans le sport. Vous pouvez apprendre théoriquement un sport, hein, n'est-ce pas ? Mais il faut le pratiquer. Vous pouvez apprendre théoriquement la musique avec le solfège, mais il faut jouer d'un instrument ou chanter. Dans le travail, pareil. Il ne suffit pas de remplir sa tête. Il faut aussi que ça suive au niveau du cœur, donc, et des jambes et des mains. Vous savez, j'ai connu des chrétiens qui connaissaient bien la Bible. Vous les questionnez, ils connaissent les références. Mais leur vie n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Il faut les deux, mes amis. C'est une chose de ramer dans une barque avec une seule rame, une pagaie, n'est-ce pas ? Je ne sais pas trop comment on fait d'ailleurs, comme ça, puis comme ça. Puis bon. Dans un kayak, vous savez, un petit peu là. Ça n'est une autre de le faire avec deux avirons, vous savez. Où est-ce qu'on va le plus vite là, hein? Avec l'aviron, hein, ça, c'est sûr, hein, parce qu'on a les deux rames, les deux avirons, on avance beaucoup plus vite. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Hein. Il faut la théorie, il faut aussi la pratique. Voilà. Avec les deux, vous avancez, vous progressez. Hein. Il faut vivre, il faut, et là il y a beaucoup de verbes, hein. Il faut appliquer, il faut garder, il faut se conformer à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, là, l'écrivain, là, il a vraiment cherché, hein, sous l'inspiration du Saint-Esprit, tous les mots qui pouvaient appuyer son argument pour pratiquer la Bible. On va en lire quelques-uns, par exemple, verset 9. On l'a chanté, je crois. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant ou en se conformant à ta parole, se conformer à sa parole. Donc c'est vraiment se vouler, pratiquer la parole de Dieu. Verset 37. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie. Voilà, là il prie, hein, il prie. Hein. Fais-moi vivre dans ta voie. Et puis verset 40, je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Je veux appliquer, Seigneur. Je le désire. Mais c'est une prière aussi, hein, parce qu'il se rend compte que il est faible. Nous sommes faibles. Et parfois, la difficulté, c'est de mettre en pratique et de vivre ce que nous lisons. Il a besoin de l'aide du Seigneur. Ça revient plusieurs fois dans ce psaume. Encore, lisons le verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Intelligence pour comprendre, mais aussi pour vivre. Voilà, pour garder. Encore deux versets, 145 et 146, pour enfoncer le clou sur cette importance de pratiquer. Je fais appel à toi de tout mon cœur, réponds-moi Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Voilà, donc toujours cette idée, j'ai besoin du Seigneur pour vivre la Bible. C'est pas automatique, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la force, de la grâce de Dieu. Terminons avec maintenant le partage de la parole partagée. C'est très bien si vous connaissez la Bible, c'est très bien même si vous la vivez dans votre vie personnelle et vous la pratiquez, mais c'est encore un plus si vous la partagez. 46 nous dit « Je parlerai de tes instructions devant les rois et je ne rougirai pas de honte. » Je parlerai de ta parole, je la ferai connaître. Paul l'a fait, il a parlé devant des rois. Sans honte. Et c'est vrai que l'évangélisation dans la rue, parfois, on a honte, parfois, il faut l'avouer, on est gêné parfois. Hein, faut être honnête, parfois c'est pas facile parce que bon, les gens... ils vous regardent, on rencontre des gens qu'on connaît, on dit « Oh mince, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Des voisins, « Ah bon, tu fais quoi là ? Qu'est-ce que tu distribues ?» Et voilà, c'est un pas, hein. Je parlerai, voilà. Je diffuserai, je partagerai ta parole. J'en parlerai autour de moi. Mais avant même de le faire autour de, dans la rue, faisons-le chez nous. On a lu tout à l'heure ce verset dans Deutéronome, on va en lire un autre. Deutéronome 11, versets 18 à 20. Commençons par partager la parole avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos frères et sœurs, dans notre famille, nos parents. Deutéronome donc 11, versets 18 à 20 nous dit « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme, hein, pas seulement dans votre tête. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. » Verset suivant, « Vous les enseignerez, donc vous les partagerez à vos enfants et vous leur en parlerez. » Donc voilà, quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc l'importance de partager, d'enseigner la Bible à nos enfants déjà et à tous nos proches. Parce que, voilà, en faisant connaître la parole de Dieu, en donnant l'amour et l'intérêt de la Bible, le but c'est de faire connaître celui qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Terminons avec ces versets dans Jean chapitre 1, verset 1er d'abord, Jean 1, 1, qui nous montre que, voilà, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un livre, c'est aussi une personne, c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse nous dit son nom est la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Christ. On le lit aussi au verset 14. Verset 14. Et la parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà. La parole incarnée, c'est Jésus. Si vous aimez la Bible, vous aimerez Jésus. Si vous cherchez de tout votre cœur, comme le disait notre frère, vous trouverez Jésus. Parce que la Bible parle de Jésus, le Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés, on l'a rappelé, celui qui est ressuscité pour notre justification. Avant de prier, allez, quelques questions pour voir si ce que vous avez retenu. Quelle est la particularité, ou quelles sont les particularités de ce psaume 119 ? Comment ?
Sa longueur.
Sa longueur, hein, c'est le plus long psaume, plus long chapitre même de la Bible, 176 versets. Ensuite,
sa position.
Sa position, oui. Oui, ouais, si on peut dire. Plein centre, c'est vrai. Hein.
Il fait l'éloge de la loi divine.
Il fait l'éloge de la loi divine. Oui, c'est vraiment, il parle de, que de la Bible finalement, que de la parole de Dieu.
Acrostiche.
Acrostiche, c'est un. Alors, on ne le voit pas en français, mais si vous allez dans l'hébreu, c'est un acrostiche, donc. Tous les huit versets, c'est une autre lettre de l'alphabet hébreu, hein, pour mémoriser. D'accord, très bien, pas mal. Quels sont les différents P là que j'ai partagé? Le plan, est-ce que vous avez retenu le plan?
Plaisir.
Le plaisir, la passion. Alors partage à la fin, oui. La pratique, voilà. Ah, la prière aussi, oui, on peut mettre la lecture prière.
Hein.
Avec un P, il faut que ce soit moi, c'est avec un P, mais bon. Le partage, voilà, oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc, que Dieu, voilà, mette à cœur de la lire, hein, voilà, si vous pouviez prendre à cœur de, vraiment, d'avoir une passion pour cette parole de Dieu, votre vie peut vraiment changer encore. Bonne question à vous poser les uns les autres aussi. Qu'est-ce que tu lis dans la Bible actuellement? C'est là qu'on voit. Si on lit la Bible, qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on a retenu ce qu'on a? C'est une bonne question à se poser. Hein. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce trésor que nous avons entre les mains, Seigneur. Le plus grand de tous les trésors, ta parole. Ta parole qui contient aussi ta personne, Seigneur. Qui nous révèle ta personne magnifique, merveilleuse. Glorieuse. Jésus-Christ, notre Sauveur. Je te prie ce matin que s'il y avait des personnes dans cette salle qui n'avaient pas la certitude d'être sauvées, la certitude d'être tes enfants, eh bien qu'elles puissent ce matin, Seigneur, t'ouvrir leur cœur et te recevoir, toi, la parole vivante et incarnée de Dieu, te recevoir comme le Sauveur, comme celui qui a porté leurs péchés, celui qui est mort et ressuscité pour leur salut. Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous, attire-nous plus près de toi ce matin et que ton nom seul soit glorifié par nos vies, que nous puissions mettre en pratique la Bible et devenir des lettres de Christ, comme dit Paul, des lettres vivantes. Que quand les gens nous voient, ils voient la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu crue, vécue, partagée. Amen. Avant de passer la main à Fabrice, j'ai d'autres annonces à donner. Premièrement, le dimanche 25, donc nous aurons effectivement la fête de Thanksgiving, repas d'action de grâce, mais nous collecterons aussi une offrande spéciale, une offrande d'action de grâce. Voilà. Hein? On n'a pas fait en début d'année notre offrande au roi des rois, donc on ferait ça le 25. Pour les membres de l'Église, samedi 1er, 15h, il y aura une assemblée générale, une réunion de membres, samedi 1er décembre. Et je vous annonce déjà la fête de Noël. Vendredi 24, soirée louange sur le thème de Noël. Et dimanche 16, culte de Noël avec un repas. Décembre, bien sûr. Voilà. Vendredi 14, c'est pas ça ?
Soirée louange, c'est 14, c'est pas 24.
J'ai mis 24. Forcément, Noël 24, non, c'est le 14. Vendredi 14, dimanche 16. Voilà.